Vous êtes à l'écoute de Radio Intervalle et pour notre série d'émissions des animaux et des hommes, nous parlerons ces prochaines semaines des ABC de la biodiversité et ce sera en compagnie d'Aymeric Sulman. Aymeric Sulman, garde-moniteur du parc national des Cévennes sur le massif du Mont-Lozère. De temps en temps, tu te promènes au-delà du massif du Mont-Lozère ou bien ?
Ah oui, ben, on a des missions un peu transversales maintenant sur l'ensemble des massifs où on est amené à travailler sur les autres massifs, les Gouals, les Causses, les vallées Cévenoles.
Alors, il y aura peut-être de belles découvertes à partager avec nos auditeurs pour ce qui concerne les autres massifs. Mais là, on va revenir encore sur le Mont-Lozère. Donc, cela fait maintenant 2 ans que toute une équipe de gardes, d'ailleurs, travaille sur l'Atlas de la biodiversité.
Oui.
Alors, j'imagine que petits et grands ont dû faire des découvertes, parfois des découvertes qui étaient connues depuis très longtemps, je pense en particulier pour les enfants, et puis d'autres qui sont inattendues. Alors on en a déjà parlé dans une première émission sur cette thématique. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ?
D'une façon de prospecter, c'est-à-dire que sur la thématique des atlas de biodiversité, on a parlé des animations de sensibilisation où on faisait participer le grand public et les habitants à la découverte de leur environnement. Et puis, il y a une partie plus un peu obscure de prospection de part des spécialistes. Et là, on a mis au point, si on peut dire, c'est qu'on a fait que copier nos prédécesseurs, hein, d'essayer de faire une animation destinée à un public un peu averti, de naturalistes qu'on avait repérés, qui étaient déjà venus à nos sorties. On les a invités à faire une sorte de raid nature, un peu dans l'idée de ce que faisaient nos anciens quand ils partaient, par exemple, pour les Pyrénées. Il y avait un botaniste qui était parti de Candolle, qui était parti de Banyuls et qui était allé jusque Biarritz en traversant les Pyrénées pendant 3 mois. Et il avait fait des relevés extraordinaires. Donc c'est l'idée, sans que ça dure 3 mois, mais au moins sur plusieurs jours, de suivre une expédition, si on pouvait employer un grand mot, une expédition naturaliste avec plusieurs spécialistes qui étaient là, tantôt sur les oiseaux, sur les papillons, sur les plantes, sur les mousses, etc., avec des gens qui étaient plus ou moins naturaliste, mais pas forcément spécialiste, et l'ensemble formait un petit groupe d'un peu moins de 10 personnes où on a essayé de noter tout ce qu'on observait sur toutes ces thématiques. Donc ça ressemble un peu à des... On ratisse, entre guillemets, tout ce qu'on voit, les papillons, les insectes. On fait énormément de photos aussi, parce que tout n'est pas déterminable sur le terrain. Et on fait des grandes listes comme ça, et avec ce sentiment, voilà, on est tout le monde est à pied. On dort sur place également et ça donne, voilà, ça renoue avec des sentiments qu'on avait un peu perdus de ces expéditions et de les faire en Cévennes, c'est assez, voilà, c'était une volonté un peu de casser les habitudes, de rentrer tous les soirs à la maison.
Alors là, on a des émotions qu'on n'a peut-être pas quand on est dans le quotidien.
Exactement. Voilà. Et sur la durée, alors c'est ce qu'on aimerait renouveler pour les 50 ans du parc, peut-être l'année prochaine, de faire une animation sur plusieurs jours où on inviterait les gens à venir nous rejoindre sur ce genre d'expédition, si on peut dire. Donc ça, c'est en cours de préparation. On vous en dira plus le moment venu. Mais pour les 50 ans du parc en 2020... on fera tout un tas d'animations pour restituer tout ce qui a été fait pendant 50 ans dans le parc des Cévennes.
Alors, en parlant d'animation, avant que l'on parle peut-être d'autres découvertes, petites ou grandes d'ailleurs, avec le temps, avec également le manque de moyens financiers, le Festival Nature du Parc s'est un petit peu réduit. Est-ce qu'on peut quand même compter que vous, les gardiens finalement de la richesse faunistique et de la flore des Cévennes vont encore pouvoir nous emmener sur des chemins de traverse ?
Oui, mais l'animation, l'été de sortie, elle est toujours d'actualité. Il y a d'autres personnes que les gardes qui font aussi des animations tout l'été. Il y a des femmes de berger qui font des animations, il y a des spécialistes d'animation qui viennent nous aider à répondre à la demande, parce qu'il y a une énorme demande sur les lieux touristiques. Et tout ce qu'on fait au travers des ABC remplace, pas tout à fait, mais correspond déjà à ce qu'on faisait dans le cadre des festivals nature avant, c'est-à-dire des animations dédiées à la nature, mais très orientées sur des communes qui ont candidaté à un atlas.
Oui, c'est autant faire profiter les touristes des observations que vous avez faites, oui. Entre autres, et sensibiliser d'autant voilà. plus.
Et on a voulu aussi équilibrer la communication auprès des habitants. Donc c'est essentiellement la dynamique ABC, si on veut, orientée vers les habitants, les touristes aussi, mais c'est quand même la priorité, c'est la communication auprès des habitants, les permanents qui vivent ici. Et puis une communication estivale qui est plus orientée vers les touristes et les habitants aussi.
Alors avant que, Aymeric, peut-être tu nous signales encore quelques autres observations que tu as pu faire, j'en ai une à faire. J'ai le tableau sur la connaissance phonistique que je suis allée imprimer, page 14, au Parc National, donc sur le site du Parc National des Cévennes, et concernant ces enquêtes naturalistes sur les richesses de la faune en l'occurrence. Alors je m'aperçois qu'il y a toute une liste d'espèces, donc certaines. On aura l'occasion d'en reparler parce que finalement, je suis têtue et je saurai bien à un moment donné qu'est-ce que c'est qu'un ropalocère. Mais juste en dessous, en pourcentage d'espèces par rapport au Parc National des Cévennes, eh bien, il est placé les rapaces, autres que le vautour. Nombre de données à Valrhog en décembre 2017, 670. Nombre d'espèces connues, 25. Nombre d'espèces connues sur le parc et non pas simplement à Valrhog, 46. Est-ce que ce sont des chiffres qui sont impressionnants ou pas?
Là, ça concernait quel groupe
Les rapaces autres que les vautours.
Oui, oui.
Parce que ça fait beaucoup, il me semble.
Oui,
54% d'espèces par rapport au parc.
Oui, c'est en fait le sud de la France et notamment les massifs montagnés du sud de la France, dont les Cévennes, font partie des endroits les plus riches en rapaces de France. Ça, c'est mieux que les Alpes, ça sans aucun problème. Du fait d'une proximité aussi du milieu méditerranéen, mais on a des concentrations par exemple en circaète, Jean Leblanc qui est un rapace mangeur de serpents assez connu quand même en Cévennes. C'est parmi les plus importantes de France, sans problème. Et cette richesse en rapaces, elle est aussi liée sans doute à une assez bonne conservation des milieux naturels et des proies dont ils se nourrissent. Et la reconstitution de la population de vautours moines et de vautours fauves, qui est plutôt un succès, c'est aussi un bon signe globalement de la santé des Cévennes, si on peut parler comme ça.
Alors tout le monde n'aime pas forcément les vautours, bien qu'ils aient leurs utilités. Quel autre type de rapace on va trouver? Que mange-t-ils? Je sais que le circaète Jean Leblanc mange des serpents. Je ne sais pas si c'est son alimentation exclusive ou pas.
Il reste opportuniste quand même, mais c'est à 80% environ, hein, les serpents et les reptiles. Donc le reste de l'année, notamment quand il fait froid et que les reptiles ne sortent pas, il peut s'attaquer à des rongeurs. Il mange aussi beaucoup de lézards, etc.
Opportuniste. Voilà. Est-ce qu'il reste tout le temps, toute l'année ou...
Non, c'est un oiseau qui quitte...
L'immigrateur.
Qui quitte la France et l'Europe en fin d'été, courant septembre.
Et il revient au printemps.
Voilà.
Et il s'en va où? En Afrique?
Oui, il utilise très rarement.
Et les autres rapaces, autres que le circaète Jean Leblanc, qu'est-ce qu'il peut y avoir?
Ils sont assez nombreux. Il y a l'aigle royal qui est bien connu, qui a une population qui s'est bien refaite depuis 40 ans.
Il est particulièrement sur le massif du Mont-Aigoual, non?
Il est sur tous les massifs maintenant, Vallée-Cévenole y compris. Il y a plus beaucoup d'endroits où il n'est pas, mais il y a encore des zones qui peuvent l'accueillir. Donc l'aigle royal, il y a l'aigle beauté qui est un peu moins connu, qui vit en forêt et qui est très discret. Il y a un certain nombre de faucons. Alors Par exemple, pour parler d'actualité, cette année, on a eu la découverte d'une observation originale de faucon d'Éléonore, qui est un faucon qui est très particulier, qui chasse les migrateurs. Et donc, il se reproduit au moment où les migrateurs se déplacent. Donc, fin août, début septembre, il commence sa reproduction parce qu'il s'installe aux endroits où les migrateurs passent. Et il chasse essentiellement les oiseaux migrateurs. Et ce faucon a été observé en Cévennes, ce qui est assez rare. Il était connu régulièrement du côté de Sandras. Et là, il a été observé sur une crête, la route des crêtes, hein, entre Porte et Pont-Montvert par des collègues. Donc il y a encore des découvertes comme ça qui se font sur certains oiseaux très rares. Alors il n'est pas nicheur chez nous, mais il vient fréquenter nos crêtes.
Quel est le plus petit rapace que nous ayons ici en Cévennes?
Ah, bonne question. Alors c'est pas ma spécialité, mais je si mes souvenirs sont bons, le plus petit rapace, probablement le faucon cresserellette, qui est plus petit que la taille d'un pigeon. Et c'est un faucon qui se nourrit essentiellement de criquets. Et donc il vient. Alors il niche pas encore en Cévennes, mais il vient en bandes qui peuvent dépasser la centaine, voire plus d'individus, sur le Cosméjan et sur quelques zones du Mont-Lozère, avec tout simplement le besoin de se nourrir. Donc il vient manger des criquets, les criquets des Cosméjans, notamment les bonnes années à criquets.
Merci, Aymeric, parce que là, je te fais travailler, hein, sur. Moi, c'est facile, j'ai un tableau sur la connaissance phonétique, donc je n'ai qu'à sortir quelques informations concernant le pourcentage d'espèces par rapport au parc national des Cévennes, le nombre d'espèces. On a donc parlé des rapaces, mais je ne sais pas toujours, et je crois qu'on va en terminer là quand même. Qu'est-ce que c'est qu'un ropa le cerf?
Ah, alors oui, il y a beaucoup de moyens de faire peur avec plein de noms bizarres en nature. Et oui, ropa le cerf, ça fait peur, c'est tout simplement les papillons de jour. Et on lui oppose, entre guillemets, les papillons de nuit qu'on appelle hétérocerfs. Alors, hétérocerfs, c'est qui ont en fait des antennes qui sont pas les mêmes entre mâles et femelles. D'où hétéro différent.
Voilà. Et c'est en pourcentage d'espèces, dans le cadre de la zone du parc national des Cévennes, en pourcentage d'espèces, ce sont ces papillons que l'on trouve en plus grande concentration sur tous les autres animaux.
Sur la commune, c'était.
Non, dans le parc, le nombre d'espèces. Ah oui, nombre d'espèces connues à Valrhogue.
Ouais.
C'est là où il y a le plus de papillons. Qu'est-ce que c'est qui expliquerait pourquoi les papillons sont plus nombreux que
À
les
Valrhoc,
vautours,
qu'ailleurs.
que les
Oui.
chauves-souris, que les passereaux, etc.?
Oh, ces pourcentages
C'est
d'espèces,
normal
ça permet
peut-être?
juste de quantifier notre degré de connaissance. Et c'est-à-dire quand on a 70% des papillons sur une seule commune, on peut se dire que cette thématique est relativement bien connue sur cette commune. Et donc on peut dire là avec ce chiffre qu'à Valrhogue, il y a eu deux, trois spécialistes de papillons qui y sont passés et qui ont certainement bien travaillé, bien cadré la zone. C'est ça que ça veut dire ce chiffre.
Très
Mais ça
bien.
reste intéressant. Et donc oui, Valrhogue, en plus avec sa grande diversité d'altitude et de milieux, elle est capable d'abriter énormément de papillons. Oui.
Voilà, donc ces deuxièmes mystères résolus. Après l'explication sur les ropalocères, on sait pourquoi ils sont nombreux. Mais peut-être avant de terminer cette émission, Aymeric, les chiroptères, la plupart du temps, les gens savent que ce sont des chauves-souris. Si ça n'est pas le cas, eh bien, ils le savent. Par contre, les odonates.
Ah oui, les odonates, c'est une autre façon d'appeler les libellules. Voilà.
Tout simplement.
Alors les libellules, parce qu'il y a deux groupes, il y a les vraies libellules et ce qu'on appelle les demoiselles. Et ça dépend tout simplement de la façon dont elles replient leurs ailes. Soit elles les replient à la verticale au-dessus de la tête, soit elles restent à plat. Ça, c'est les vraies libellules. Et les demoiselles, c'est celles qui ont les ailes repliées à la verticale au-dessus de la tête.
Eh bien, sachez, amis auditeurs, qu'il y a 90 espèces de ces libellules dans le parc national des
Oui.
Cévennes, et je terminerai par les hétérocères.
Hétérocère, mais j'en parlais tout à
Hétérocères.
l'heure, c'est l'opposé des ropalocères, c'est-à-dire les hétérocères sont les papillons de nuit et les
Ah,
ropalocères les
voilà.
papillons de jour.
Voilà.
Et les papillons de jour sont certes très nombreux, en France on est de l'ordre entre 300 et 400 espèces, alors que les hétérocères, le chiffre n'est pas encore précis, mais on est au-delà de 1000 à 1500. Donc c'est beaucoup plus, la diversité nocturne des papillons est nettement plus importante que la diversité diurne.
Et c'est normal?
C'est normal parce que d'une part, tous les hétérocères, donc les papillons dits nocturnes, ne sont pas tous que de nuit. Mais il y a aussi oui, une niche écologique qui est particulière la nuit, qui fait qu'il y a une grosse diversité qui s'est produite la nuit en fait.
Merci Aymeric, beaucoup d'informations comme cela, hein, au pied levé, parce que c'est en faisant appel à ta mémoire qu'on arrive à peu près à décrypter le tableau sur la connaissance phonistique. Alors il faut savoir, ami auditeur, que ce tableau-là, c'est la page 14 du dossier que l'on trouve dans le site du Parc national des Cévennes et concernant les ABC de la biodiversité, des ABC de la biodiversité qui vont se poursuivre encore durant toute l'année et les années prochaines d'ailleurs, parce que je pense que beaucoup certainement de communes seront intéressées à poursuivre ce compagnonnage en quelque sorte avec les gardes-moniteurs du parc. Merci beaucoup, Aymeric. Un cloporte, c'est un isopode, c'est cela?
Oui.
Alors, ce cloporte qui est un isopode, qu'est-ce qu'il mange? C'était la question que je vous ai
Ouh
posée,
là là.
je crois, dans la première émission. Vous voyez, je suis persévérante.
Alors, eh ben, bonne question. Moi, j'ai découvert le mot isopode il y a très peu de temps. J'ai découvert qu'on avait un spécialiste qui était venu sur la commune de Florac faire des recherches particulières sur ce groupe-là. Et que ce qu'on appelait cloporte, en fait, il n'y en a pas qu'un ou deux, mais il y en a 215 en France. C'est énorme. Et je ne soupçonnais pas une telle diversité. Donc, c'est des animaux qui sont des animaux du sol, essentiellement, et qui se nourrissent de débris organiques, essentiellement, ou de plus petits insectes qu'eux encore. Donc, c'est des décomposeurs. Ils participent à la décomposition du sol. Ils sont essentiels, en fait, à l'activité d'un sol.
Eh bien, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste, vous êtes quand même bien débrouillé. On aura l'occasion de se retrouver pour d'autres émissions pour parler de cette richesse que nous avons ici en Cévennes. À bientôt,
Oui, à
Aymeric.
bientôt.